Bonjour et bienvenue dans le grand face-à-face de France Inter. Merci de nous être fidèles tous les samedis au sommaire jusqu'à 13h. Dans un instant, le duel Natacha Polony-Gilles Finkelstein. Et puis le débat du samedi, l'humanité au risque de la technologie, la grande révolution de l'IA, de l'intelligence artificielle. Cette grande révolution doit-elle nous effrayer ou d'abord susciter l'espoir? Question d'actualité au moment où les plus grandes entreprises de la tech mondiale et notamment les GAFA investissent dans ce secteur des sommes colossales. Derrière les progrès techniques se profilent, vous le verrez, des enjeux vertigineux d'ordre éthique ou politique. Invité du grand face-à-face cette semaine, l'un des grands noms de l'intelligence artificielle. Il dirige la recherche fondamentale chez Facebook, il est professeur à l'université de New York, lauréat 2019 du prix Turing, le Nobel de l'informatique. Et il publie « Quand la machine apprend » chez Odile Jacob. Rendez-vous avec Yann Lequin dans une vingtaine de minutes.
France Inter. Le grand face-à-face, Ali Badou.
Le grand face-à-face avec la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Bonjour les amis.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver et on va évidemment revenir sur l'actualité de la semaine et bien sûr cette attaque contre la mosquée de Bayonne. Écoutez Manuel Valls, il était au micro de France Inter ce mardi.
Une des plus belles démonstrations que nous avons à faire pour nous-mêmes, à l'Europe et au monde, c'est de montrer précisément que dans ce pays, l'islam, les musulmans sont parfaitement compatibles avec les valeurs de la République. Or, s'il y a un doute au sein des Français, c'est qu'il y a un problème et qu'il y a un danger de concorde nationale. Donc, il faut aider, protéger d'abord, aider les Français musulmans à combattre au sein même de l'islam ceux qui portent l'idéologie de haine.
C'était donc Manuel Valls. Natacha, on est en pleine confusion. C'est très compliqué de s'y retrouver dans cette période. Manuel Valls prononçait des propos assez clairs. Malgré tout, la question de cette attaque contre la mosquée de Bayonne survient à un moment où se mélangent toutes les questions, tous les débats, toutes les polémiques autour de l'islam. Comment y voir clair ?
Alors, je pense déjà que la seule façon d'y voir clair est d'essayer d'éviter les pensées réflexes, les caricatures, et de poser les choses, de poser quelques points fondamentaux. Premier point, il s'agit bien de la première, du premier attentat en France dirigé contre des musulmans, contre une mosquée, et qui blesse par balle des musulmans parce que musulmans. Et en cela, c'est un précédent gravissime, même si là, on peut considérer que cet homme était visiblement indéséquilibré, c'est le terme qu'on utilise désormais, et qu'il était dans une sorte de dérive assez lamentable. Mais pour autant, voilà, c'est un précédent majeur. Et il ne faut pas le minimiser. Deuxième point, tout aussi important. Il est absolument effarant de voir le déchaînement de haine, de rancœur, notamment sur les réseaux sociaux qui ont le triste avantage de permettre aux gens de s'exprimer sous couvert d'anonymat et donc de dire ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes.
Oui.
Un déferlement de haine qui tend à fracturer le pays et à construire deux camps. Or, justement, c'est ce qu'il y a de plus dangereux. L'idée qu'il y aurait deux camps et qu'il faudrait choisir le sien. Et je suis très frappée de l'hémiplégie de beaucoup de gens, c'est-à-dire d'un côté ceux qui, d'habitude, quand il y a un attentat islamiste, disent « attention, pas d'amalgame » et tout cela n'a rien à voir avec l'islam et qui, là, pratiquent les amalgames et l'accusation généralisée et font comme si le fait même de s'interroger sur la visibilité de l'islam dans l'espace public à travers le voile était déjà la préparation d'un attentat. Et en face, ceux qui d'habitude justement s'insurgent, qu'on ne nomme pas, qu'on ne dise pas qu'un terroriste est un terroriste et qui là tout à coup ont l'air de dire « Ah mais non mais c'est rien, c'est un déséquilibré, mais non mais ça n'a rien à voir » avec des discours comme ceux, par exemple, que peut tenir un Éric Zemmour quand il appelle clairement dans un discours à la guerre civile. Voilà, non, non, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'on a une hypocrisie absolue de la part de gens qui se radicalisent, et je pense que la nécessité aujourd'hui est d'essayer de tenir un discours de juste mesure. Un débat sur le voile n'est pas illégitime du moment qu'il ne vire pas à l'obsession et à l'hystérie. En revanche, il est absolument nécessaire de considérer que les musulmans en France ont toute leur place, et il faut le dire, c'est pas seulement le considérer, c'est le dire, et le dire très fort, et que l'islam n'est pas incompatible avec la République du moment qu'on sait encore ce qu'est la République.
Gilles Finkelstein.
Oui, je crois qu'il y a pas, il ne doit pas y avoir de confusion, que les choses en réalité sont assez simples. Natacha Polony vient de le dire, d'abord, accepter de nommer les choses. Et donc, quand il y a une agression contre des biens ou des personnes dans un contexte politique comme celui-là, ça s'appelle un attentat, et je crois qu'il faut le dire, et que ça a été un tort du ministre de l'Intérieur de ne pas le dire aussi explicitement. Deuxièmement, il faut refuser l'hémiplégie. Natacha Polony l'a dit, elle a raison, c'est-à-dire qu'il faut avoir exactement la même attitude lorsqu'un attentat vient de l'extrême droite ou de l'ultra-gauche ou des terroristes islamistes. Il faut refuser également la précipitation, et donc il faut garder une prudence sur l'état psychologique en l'espèce de l'auteur. D'ailleurs, on le voit également sur l'attentat contre la préfecture de police de Paris, où les choses ne sont pas si simples. Et surtout, et en tout état de cause, je crois qu'il faut s'alarmer, parce que la situation est alarmante. S'alarmer d'un regain de violence de l'ultra-droite, ce n'est pas le premier attentat, c'est le premier attentat de fait qui a lieu, mais il y a eu plusieurs attentats qui ont été déjoués, s'alarmer d'un terreau intellectuel qui non seulement est nauséabond, mais qui devient de plus en plus dangereux. Lorsque, on avait parlé il y a quelques semaines ici du discours d'Éric Zemmour, dont on avait essayé de souligner les points qui posaient problème, lorsque l'on parle de la nécessité du réveil des consciences, de la menace civilisationnelle, du grand remplacement, lorsque, cette semaine encore, Yves Tréhard, sur LCI, dit « Je déteste la religion musulmane », il y a un terreau qui est extrêmement inquiétant. Et enfin, et c'est rarement souligné, il faut s'alarmer de la radicalisation de plus en plus importante des sympathisants du Rassemblement National. Lorsque vous regardez dans toutes les enquêtes d'opinion ce qu'ils pensent, dans l'enquête qui est encore sortie cette semaine, dimanche dernier, dans le journal du dimanche, qui a fait grand bruit. Lorsqu'on regarde ce que pensent non pas les Français en général, mais les sympathisants du Rassemblement National, il y a une radicalisation de plus en plus importante, une obsession réelle de l'islam. 80% des sympathisants du Rassemblement National qui disent « la première priorité, c'est la lutte contre l'islamisme ». Un sens de la laïcité qui est dévoyé et qui, à la différence des sympathisants de tous les autres partis, est lu d'abord à l'aune de faire reculer l'influence des religions, en l'occurrence d'une religion, et cette idée, massivement 85% des sympathisants du Rassemblement National qui disent l'islam n'est pas compatible avec les valeurs de la République. Donc je crois que c'est assez simple, il faut s'alarmer de tout ça, et il faut sortir d'une forme de silence coupable face à des dérives. J'ajoute juste une dernière phrase, je ne sais pas si vous avez vu le film Alice et le maire avec Fabrice Luchini. Dans Alice et le maire, Alice, donc, qui est la collaboratrice du maire de Lyon, jouée par Fabrice Luchini, lui écrit une note dans laquelle elle souligne, je la cite, « la perte du crédit moral qui affecte les formes civilisées de la vie ». Eh bien, on en est exactement là, et je crois qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont attachés à ces formes civilisées de la vie, et qu'il faut aujourd'hui les défendre avec force.
Natacha.
Je crois qu'en effet, la question de ce qu'on peut appeler les formes civilisées de la vie et la question de la rationalité et de la possibilité pour des citoyens de se retrouver autour d'une pensée rationnelle me semble aujourd'hui absolument essentielle.
Vous y croyez?
À ceci près.
À la possibilité.
Non, je pense que nous ne sommes pas là pour croire ou ne pas croire, nous sommes là pour rendre possible. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'y croire en se disant « Oh, peut-être que ça peut exister », il s'agit de se demander comment on prépare ça, quelles sont les conditions politiques pour faire en sorte que cela puisse exister. Et je crois simplement que la phrase d'Yves Tréhard pose problème en effet dans le contexte actuel. En revanche, elle distingue, et c'est toute la question et tout le problème, elle distingue la religion, le droit de critiquer une religion, et les croyants eux-mêmes qui doivent être respectés systématiquement. Le problème, c'est qu'évidemment, prononcer cela en ce moment n'est pas anodin, d'autant plus qu'on sait à quel point cette distinction, hélas, n'est plus comprise. Mais dans un pays qui est celui de Voltaire, nous devons absolument préserver la possibilité de critiquer les religions. Il n'y a pas de délit de blasphème, et ça aussi, ça doit pouvoir être rappelé.
Oui, on peut évidemment critiquer d'amour. On peut évidemment critiquer les religions. Le problème, c'est que de je déteste la religion musulmane à je déteste les musulmans, il y a un pas que beaucoup d'esprits
c'est ce que je viens de vous dire. Et
peuvent franchir.
France Inter, le grand face à face. Le duel.
L'hôpital public, c'est un navire en perdition dans la tempête. Donc ce qu'il nous faut, c'est des remorqueurs de haute mer. Si vous envoyez deux Zodiacs, il ne va rien se passer et il va aller se crasher le bateau.
Il n'y a plus de dialogue social. Il y a du mépris envers tous les cheminots. On leur dit clairement, eh ben démerdez-vous.
Avec les simulations que nous avons faites, nous voyons que les enseignants perdraient 10 à 30% du niveau de pension. C'est bien sûr énorme.
On vient d'entendre un manifestant qui faisait grève à l'hôpital, un cheminot à Châtillon, une enseignante. Est-ce que vous voyez dans l'accumulation, la juxtaposition de ces mouvements de colère, Gilles Finkelstein, quelque chose qui pourrait ressembler à une agrégation? Est-ce que ces mouvements peuvent se rejoindre? Est-ce qu'on peut parler, je crois que c'est votre expression d'ailleurs, de marmite sociale?
Il y a une marmite identitaire, celle dont on vient de parler, et elle bouillonne. Mais il y a une marmite sociale qui frémit. La première le fait bruyamment, la deuxième le fait peut-être trop à bas bruit, mais elle est là et je pense qu'elle monte en température. Est-ce qu'il peut y avoir une convergence des mouvements? Je n'en sais rien. En revanche, il y a des convergences entre ces différents mouvements. Il y a une même demande de reconnaissance. Le mot mépris qui a été là avancé par le cheminot, je crois, correspond assez bien à une demande de reconnaissance à la fois matérielle et symbolique de ces différentes professions. Il y a le recours à des formes inédites de mouvement. La SNCF, le retrait, droit de retrait massif, grève sans préavis, c'est nouveau. À l'hôpital, le refus de codage des actes, c'est nouveau. On l'avait vu il y a quelques mois dans l'enseignement avec le refus de correction des copies.
Et ça échappe souvent aux syndicats d'ailleurs.
Ça échappe souvent aux syndicats et c'est là aussi une convergence. Et enfin, peut-être la dernière convergence, c'est que ces différentes professions sont d'une certaine manière les premières lignes de la République, celles qui sont confrontées aux difficultés de nos concitoyens. Donc, tout ça traduit un malaise qui est un malaise profond, un malaise qui ne date pas de l'élection d'Emmanuel Macron et qui ne se résout pas d'un coup de baguette magique.
Natacha ?
Je crois qu'il y a en ce moment quelque chose qui est en train de se passer partout dans le monde sous différentes formes. Il y a partout dans le monde, au Chili, en Irak, au Liban, un réveil des classes moyennes, c'est-à-dire la prise de conscience tout à coup que ces classes moyennes, qui d'ailleurs dans certains pays avaient émergé depuis quelques décennies, sont menacées de déclassement par un système économique mondial qui les lamine. Or, ce n'est pas sans lien avec cette fameuse marmite sociale. Car ce que nous voyons aujourd'hui en France à travers ces mouvements sociaux, c'est certes l'impression de n'être pas reconnu, le mépris, bien entendu, que ressentent tous ces gens qui exercent des métiers où finalement ils servent quoi? Vous dites, Gilles, ils sont en première ligne. Ce sont tout simplement les services publics, au sens large, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'État de jouer son rôle de rééquilibrage et d'organisation de l'égalité entre les citoyens. Ça veut dire que nous avons détruit depuis plusieurs décennies, à coup de politique néolibérale, à coup d'austérité, de recul de l'État régalien, nous avons détruit ce qui faisait une spécificité française, l'existence, l'organisation du territoire par l'État. Ce sont les hôpitaux, c'est l'école, mais c'est aussi la SNCF, c'est aussi EDF, et nous détruisons tout cela, nous l'avons détricoté dans un mouvement qui est un mouvement mondial et qui va aujourd'hui se payer d'abord par des infrastructures qui sont dans un état absolument catastrophique et surtout l'impression de la part des citoyens qu'ils sont totalement abandonnés.
Gilles, est-ce que ça c'est différent de ce qui a fait naître le mouvement des Gilets jaunes? C'était il y a pile un an maintenant.
Les gilets jaunes sont nés sur à la fois une mesure ponctuelle qui était la hausse du prix des carburants et sur un fond qui était relativement proche à celui que vient de décrire Natacha. Oui, elle a raison de souligner que ça se passe dans de nombreux pays dans le monde et la marmite, et pour le coup, elle bouillonne et elle bouillonne fortement aussi dans d'autres pays. Le paradoxe est que la France est sans doute un des pays qui a le moins détruit ses services publics et qui a le moins réduit les outils de réduction des inégalités par la fiscalité. Et malgré tout, il y a ce malaise aussi qui est un malaise français. Emmanuel Macron, aujourd'hui, quand on regarde au plan national, il est plutôt en position de force d'un point de vue politique. En revanche, il est en position de faiblesse parce qu'il y a une fragilité sociale avec un jugement, je ne sais pas si vous avez vu, on est aujourd'hui à mi-mandat de l'élection d'Emmanuel Macron. 70% des Français disent « c'est injuste » et ce qui est tout à fait nouveau, 63% des Français disent « les promesses ne sont pas tenues ». C'est 20 points de plus qu'il y a un an. Donc, il y a cette fragilité sociale. Mais on a vu quelques professions qui sont dans la difficulté. Il y en a beaucoup d'autres et je crois que c'est une des difficultés, y compris que l'outil public, les fonctionnaires et les bâtiments publics eux-mêmes sont aujourd'hui en voie de paupérisation.
Natacha.
La spécificité de la France, c'est justement d'avoir choisi de s'organiser autour de ce rôle de l'État, de ce rôle majeur de l'État. Et c'est pour ça que, évidemment, nous avons préservé en grande partie cela. Nous l'avons préservé au prix du chômage de masse. Mais qu'est-ce qui a détruit cela ? L'idée n'est pas de dire il aurait fallu détricoter plus vite les services publics pour empêcher le chômage de masse. Nous avons choisi de maintenir une équité entre les citoyens, d'empêcher la grande pauvreté, et nous l'avons fait à peu près bien. Elle est en train de se creuser, l'écart est en train de se creuser, les inégalités sont en train de se creuser. Pourquoi ? Parce que nous avons subi ce mouvement général. Or, il y a une chose, l'Allemagne, au moment de Maastricht a fait écrire dans sa constitution la préservation absolue de sa spécificité qui était l'équilibre budgétaire. Pourquoi nous n'avons pas fait inscrire dans notre constitution la préservation de ce qui faisait notre spécificité, c'est-à-dire l'idée des services publics comme émanation de ce rôle essentiel de l'État? Au contraire, nous avons décidé d'abandonner cela, nous sommes en train de le payer.
Encore un mot, Gilles.
Oui, on est en train de le payer. Tout ça pose, au fond, la question de notre système économique, de notre modèle de développement, au moment précis, et c'est ça le défi devant lequel nous sommes, au moment précis où nous savons que nous devons le changer, pour des raisons notamment liées au changement climatique. Et donc, je crois que le grand défi qui nous est collectivement posé, c'est comment on fait à la fois du social et de l'environnement, comment on fait converger les deux.
À suivre dans le grand face-à-face, le débat avec Yann Lequin.